Hugo Rugière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président Cybergen. On va parler avec vous de votre actualité et puis des perspectives hein, pour l'entreprise. Alors, on le sait, dernière fois qu'on s'était vu, on avait pas mal parlé de restructuration, de réorganisation. On est encore dans cette phase hein, quand on regarde vos chiffres. Mais si vous deviez dire aux investisseurs qui vous suivent, qu'est-ce qui a été réalisé au cours des derniers mois, principalement pour vous?
Beaucoup de choses, quasiment tout, mais pas encore tout à fait tout. On a fait plusieurs communiqués de presse. Récemment, sur ces communiqués de presse, on a expliqué la totalité du plan de retournement et vous avez remarqué sans doute que nous avons une très grande transparence avec le marché. La dernière fois qu'on s'était vu, j'étais venu vous présenter le plan de retournement que nous allions mettre en place. On s'était recroisé une deuxième fois, je vous avais parlé du plan de retournement que nous étions en train de mettre en place. Et là, je vous parle du plan de retournement qui a été mis en place. Nous avons atteint les objectifs que nous étions fixés, c'est-à-dire de réduire de 4 millions d'euros les charges et tous les frais que nous avions sur la société et de façon à retrouver un EBITDA le plus rapidement possible qui était positif. Et vous avez vu donc dans les comptes semestriels que nous avons publiés que nous avons un EBITDA retraité qui arrive aux alentours de zéro puisqu'on est à moins de 100 000 sur l'EBITDA. Donc on est sur quelque chose qui enfin commence à respirer.
On rappelle, vous êtes un, pour ceux qui ne seraient pas un acteur mondial dans le tir de loisirs. Donc là, on a été dans cette phase de reconfiguration, de mise en œuvre. Donc on pourrait dire qu'il y a une bonne partie financière importante, gestion des stocks. En même temps, sur le plan commercial, c'est jamais évident dans ces périodes-là, puisqu'on est plutôt en un peu défensif.
Oui, bien évidemment. On a mené de front plusieurs chantiers qui ont été très lourds. Je vous rappelle que dans le plan de retournement qu'on avait fait, il y avait un volet offensif, il y avait un volet défensif. Et c'est sur ce volet défensif-là que nous nous sommes concentrés sur l'exercice précédent, la fin de l'exercice précédent et le début de l'exercice en cours. C'est-à-dire que nous avons coupé les coûts, nous avons fermé des entrepôts, nous avons supprimé des postes au niveau mondial, nous avons diminué les honoraires, diminué les frais de fonctionnement. Tout ça, évidemment, est très lourd. Donc, mais je crois que nous ne devons pas nous tromper de compte. Entre le commercial n'est que la deuxième phase d'un plan de retournement. Si vous faites beaucoup de chiffre d'affaires mais en perdant beaucoup d'argent, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Notre objectif c'était l'EBITDA positif, l'EBITDA positif, l'EBITDA positif. Donc nous avons quand même, malgré tout, on le voit sur le premier semestre, nous avons accusé un recul de seulement 5%. Alors j'imagine beaucoup de gens qui nous ont dit, bon, vous rendez compte, vous êtes quand même en recul. Oui, de 5% en ayant passé 6 mois à faire un plan de retournement d'une violence quand même assez rare. On va passer de moins 4 millions d'EBITDA l'année dernière à pas très très loin de zéro cette année. C'est colossal sur un seul semestre.
En même temps, donc, on voit au niveau industriel, donc, vous parliez d'entrepôts fermés. Donc aujourd'hui, l'Europe, c'est l'entrepôt de Bondouf qui
Exactement.
Est au centre de…
Ouais, nous avons, d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'on a eu 2 mois qui ont été très difficiles en EBITDA au début de l'exercice, qui étaient les mois d'avril et les mois de mai, où on a été très largement négatif sur ces mois-là, qui s'explique parce que nous étions sur la fin du plan de retournement dans son volet défensif. La fermeture des entrepôts de Ljubljana, la fermeture des entrepôts de Milan et la fermeture des entrepôts d'Arus. Pour tout ça être consolidé aujourd'hui à Bondouf. Mais aujourd'hui, vous l'avez constaté, sur juin, juillet, août et septembre, nous sommes en EBITDA positif.
Vous dites aussi dans votre communication, vous parlez de la lutte contre la contrefaçon, forcément. Dans votre secteur, c'est un enjeu important. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et finalement, ça ne dépend pas de vous, ça, pas tellement.
Ça ne dépend pas de nous, mais c'est un aspect important du redéploiement commercial. Puisque, comme vous l'avez dit, nous avons maintenant terminé le volet défensif dans la grande chose. Alors évidemment, il y a toujours des petites choses à peaufiner, mais on a terminé ce volet défensif-là. Maintenant, sur le volet offensif, vous avez raison, sur l'airsoft, nous devons reprendre les parts de marché que nous avons perdues. On faisait 100 à 120 millions de dollars il y a encore 5-6 ans. Le marché, il n'a pas disparu, il ne s'est pas envolé. Le marché, il est toujours là. Et avec toujours les fortes barrières à l'entrée qui sont notre grande chance, c'est nos licences. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison que nous ne reprenions pas ces parts de marché. Nous allons lutter contre la contrefaçon, nous allons reprendre petit à petit les marchés que nous avions perdus parce que nous avions délaissé les territoires. Donc la lutte contre la contrefaçon, pour répondre clairement à votre question, elle va passer par une relation privilégiée, beaucoup plus forte avec nos licensors. Aujourd'hui, quand vous expliquez à un gros grossiste, qu'il soit américain, qu'il soit chinois ou qu'il soit européen, qu'il est en train de faire de la contrefaçon et que Cybergun va l'attaquer, je ne vous dis pas que ça le fait rire, en tout cas, je ne vous dis pas qu'on lui fait très très peur. En revanche, demain, la Fabrique Nationale d'Armes de Herstal, Zigzauer, Kalachnikov, Colt, lui envoie directement à lui un courrier en disant « Attention, vous êtes en train d'enfreindre des droits à la propriété intellectuelle que nous avons concédé à une entreprise qui s'appelle CyberGun. Et si vous continuez, alors nous allons vous attaquer. » Là, c'est en train de changer la donne.
Sur les, justement le portefeuille et sur l'offre CyberGun, comment elle va évoluer dans les prochains mois ?
Pour le moment, l'offre est assez complète et nous sommes aujourd'hui dans un environnement mondial sur lequel la quasi-totalité du portefeuille de licences a été distribuée. Aujourd'hui, nous sommes le plus gros en termes de licences dans le monde. Nous avons quelques concurrents qui ont quelques petites licences à droite et à gauche, mais nous avons la grosse et la majeure partie. Nous venons de récupérer la dernière licence qui était encore dans la balance, que tout le monde essaye d'avoir depuis 30 ans, c'est la licence Glock. Cette licence Glock, nous l'avons récupérée pour travailler avec eux sur le marché militaire, qui est un nouveau département que j'ai ouvert quand je suis arrivé chez CyberGun. Et ce département militaire a cette licence Glock que tout le monde a voulu. Ça fait 30 ans que tout le monde la veut, c'est CyberGun qui la récupère. C'est plutôt pas mal pour un redémarrage.
Justement, de ce point de vue-là, on a vu votre communication sur Milipol. Oui. Donc là, c'est un salon réservé aux forces, hein, justement, de police, gendarmerie et autres. On parlait en introduction du tir de loisir pour CyberGun. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Qu'est-ce que vous proposez ? Apparemment, ça, il y a de l'attente à Milipol.
On a proposé de travailler avec les forces armées, les forces de sécurité, les forces de police sur des répliques d'armes qui vont servir à l'entraînement. C'est-à-dire que ce sont des répliques comme celles que nous vendons au grand public, sauf qu'elles ont été entre guillemets militarisées. C'est-à-dire que nous les avons renforcées parce qu'aujourd'hui, on a des répliques qui sont faites pour aller jouer dans les bois, pour mettre chez soi, pour tirer sur des bouts de papier. Enfin, c'est quand même quelque chose de tir vraiment de loisir. Donc, on a renforcé un certain nombre de répliques d'armes et ces répliques d'armes, nous les proposons à l'entraînement. Je vais vous donner un chiffre qui va tout de suite vous convaincre de la pertinence. C'est qu'aujourd'hui, les armées ou les forces armées s'entraînent avec des répliques, avec des armes qui tire des balles en caoutchouc, des balles en plastique, une balle plastique. Cette balle plastique aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur français l'achète 0,34 euros, 34 centimes d'euros pour acheter une cartouche. Nous vendons aujourd'hui les billes et les propulsants qui vont permettre d'envoyer la bille pour 0,004. Vous faites 100 fois aujourd'hui d'économie, 100% d'économie, enfin 100 fois l'économie sur le sujet.
Donc ça sera un développement que vous allez confirmer mais qui est en route.
Bien sûr, et puis surtout on a une chance extraordinaire, c'est que l'État français ne va pas aller acheter des FAMAS sur le marché asiatique par derrière. Donc aujourd'hui on a quand même cette grande force en règle générale, c'est que travailler avec les États est en soi une barrière naturelle sur la propriété intellectuelle.
Un mot sur, bien sûr il y a eu des événements en France concernant, on parlait de Kalachnikov malheureusement. Est-ce que ça pèse sur votre activité ? Est-ce
non.
que ça joue ?
Pas du tout. On a eu la semaine dernière plusieurs témoins d'alarme qui se sont affichés quand on a entendu dire que Toys R Us retirait de la vente des armes, des répliques d'armes. Je vais dire un secret, ils n'ont jamais vendu de répliques d'armes, Toys R Us. Ils vendaient des gros pistolets ou des espèces de gros canons à eau, ou ils vendaient à la limite des répliques d'armes qui tirent des balles en mousse, mais ils n'ont jamais vendu de répliques d'armes, au sens où nous les vendons. Ça n'a jamais été un client, ça ne le sera sans doute jamais, mais non, on ne perçoit pas aujourd'hui ça. Mais on perçoit en règle générale un ralentissement dans l'ensemble du secteur économique en France, mais qui n'est pas du tout lié à notre secteur d'activité.
Le mot de la fin, la croissance, quand est-ce qu'elle va revenir pour CyberGun ?
Bah écoutez, on espère le plus rapidement possible. Moi, je vais juste vous donner un chiffre. Quand j'étais venu vous voir la dernière fois, je vous avais dit sur l'Airsoft, on va essayer de reprendre les parts de marché, on va développer de nouveaux marchés. Ces deux nouveaux marchés qu'on voulait développer, c'est l'Amérique latine. L'année dernière, on a fait 400 000 euros sur l'Amérique latine. On finira très certainement aux alentours d'1,9 million. On est déjà à 1,4 million aujourd'hui. Donc ça, c'est des marchés qui ont une forte croissance à deux chiffres. Nous allons ouvrir très prochainement, on l'avait annoncé aussi, le Japon. Ce sont des choses qui vont dans le bon sens. Donc nous espérons, et nous pensons, et j'en suis convaincu, que nous atterrirons au 31 mars sur déjà une situation de rentabilité, de profitabilité, et ensuite il s'agira simplement de doper et de booster un petit peu l'opération.
Et bien on suivra ça. Merci Hugo Brugière.
Merci à vous.